Bonjour et bienvenue sur le podcast de Contournement. Je m'appelle Alexis et ensemble, on va encore une fois découvrir un entrepreneur qui a lancé son projet sans développeur et grâce à des outils no-code. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment Marco Perrone a mis en place toute une infrastructure basée sur Zapier et Airtable pour la société Capital PV qu'il a cofondée. Alors tout a commencé pour eux avec l'accompagnement du studio d'innovation Start the Fuck Up qui les a mis aux outils no-code et puis avec l'agence essentielle de notre ami Thomas Janot que l'on mentionne régulièrement dans ce podcast et qui était notre invité dans l'épisode 5 pour parler de Zapier. Alors je ne veux pas trop rentrer dans les détails dès maintenant car Marco en parle très bien, mais vous allez voir que tout ce qu'ils ont fait est vraiment très avancé et pourtant ça tient la route malgré la belle croissance de la société. Alors si vous pensiez que le no-code c'était pour faire des prototypes, eh ben, je pense très sincèrement que vous allez changer d'avis après avoir écouté cet épisode. Allez, pas plus de suspense, on y va maintenant. Bonjour Marco, merci de prendre le temps de répondre à nos questions pour le podcast de Contournement sur le no-code. Alors c'est Thomas Janot qui nous a mis en relation, parce qu'apparemment tu fais plein de choses passionnantes avec ta société, et vous utilisez beaucoup des outils comme Zapier et Airtable. Alors Thomas était intervenu dans ce podcast dans l'épisode 5 qui était consacré à Zapier, dont il est un des experts français, et puis on a eu l'occasion plein de fois d'échanger avec lui, de travailler avec lui. Et donc quand il m'a dit qu'il fallait absolument qu'on se parle, j'ai été très curieux d'en savoir plus sur ce que vous faites. Donc on n'a pas eu l'occasion encore de beaucoup parler, donc voilà, on s'est dit autant enregistrer le podcast directement et puis découvrir tout ça. Donc j'ai vraiment hâte que tu nous en dises plus. Mais avant de rentrer dans les détails vraiment de votre activité, de ton usage du no-code, est-ce que tu peux un petit peu te présenter?
Oui, merci pour cette invitation. Je m'appelle Marco Perrone, je suis italien, vous allez probablement l'entendre de mon accent, un des associés de la société Capital PV. On est quatre associés de cette société qu'on a créée en 2018. Les autres associés sont, il y en a deux qui sont français, Axel de Pontbriand et Grégoire Papillon, et un autre associé allemand, mais qui vit notamment à Paris en France depuis des années, qui s'appelle Sébastien Moïsous. On a commencé cette activité en 2018, on a lancé cette activité parce qu'on est tous des experts dans le domaine du photovoltaïque. On vient tous du domaine de photovoltaïque. Un de nous, Grégoire, il est un ingénieur et développeur de projets photovoltaïques, alors que moi, Axel et Sébastien, on s'est plutôt occupé du développement en Allemagne, France et Italie, mais surtout de ce qui concerne la distribution de matériel photovoltaïque. Et il y a deux ans, on a un peu décidé de changer le focus. Et on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'opportunités sur les trois pays dans lesquels on travaille depuis toujours, qui sont l'Italie, la France et l'Allemagne, de mettre en relation des développeurs de projets photovoltaïques ou des installateurs avec des propriétaires de grosses toitures d'immeubles ou de terrains qui étaient intéressés à louer leur terrain, à louer leur toiture ou encore à avoir la possibilité de pouvoir installer un hangar dans leur propriété à un coût très réduit, voire gratuit dans certains cas. Grâce à un système de subventions en France, en Allemagne, en Italie, ou encore tout simplement grâce au système du fait qu'aujourd'hui le photovoltaïque est devenu beaucoup moins cher qu'avant et le retour de l'investissement est très rapide pour les investisseurs. On a pensé de créer une plateforme qui okay. mettait en relation de manière digitalisée les professionnels du photovoltaïque, donc les développeurs, les installateurs, avec en France et surtout les agriculteurs, disons qu'il faudrait dire les propriétaires de terrains ou d'immeubles. Après, chaque pays peut avoir un focus un peu différent. En France, le secteur de l'agriculture est très fort, donc normalement les gros terrains ou la nécessité d'avoir des hangars en France concerne surtout les agriculteurs. Et à travers cette plateforme, on les met en relation, c'est-à-dire que nous, on essaye d'acquérir la demande de location du côté de l'agriculteur. On fait une évaluation assez technique, assez poussée, pour vérifier si effectivement il y a assez d'ensoleillement, il y a assez de possibilités pour pouvoir proposer le projet à des investisseurs d'un point de vue économique, si c'est faisable, d'un point de vue structurel, de la toiture ou du terrain, si c'est faisable. Et une fois qu'on décide de qualifier et approuver le projet, ben on le met à disposition de notre réseau d'investisseurs et de développeurs que du coup ont la possibilité de acheter ce lead et de se mettre en contact avec les propriétaires. Et tout ça, on le fait de manière très digitale, c'est-à-dire que tout se fait à travers nos plateformes. On a presque jamais des contacts un peu traditionnels, donc par mail, ça arrive. Mais à la base, nos clients sont totalement indépendants en utilisant notre plateforme, parce qu'on va toujours créer un back-end pour eux, donc un espace client personnalisé qui leur permettra de acheter, de gérer et toute la partie information et gestion des flux avec le lead acheté.
Ok, très intéressant. Mais justement, c'est vraiment je pense que ce point-là, toutes ces automatisations que vous avez, quand tu dis que c'est pas de contact vraiment traditionnel, c'est ça qu'on va creuser un petit peu. Alors juste avant de passer là-dessus, pour bien comprendre, donc tous ingénieurs et experts vraiment du domaine du photovoltaïque, qui est vraiment le sujet principal de votre société. Mais donc il y a personne de technique.
Exactement. Bah ça c'est
technique du web, puisque tu parles beaucoup de digital. Par contre, aucun de vous n'était dans ce milieu, si je comprends.
Exactement.
Bien.
Bah là j'ai juste essayé en quelques minutes d'expliquer un petit peu le business model. Après, je sais que c'est pas très évident pour les personnes qui ne sont pas dans le photovoltaïque, parce que pour moi c'est simple d'expliquer un concept qui est clair depuis des années, mais bon, c'était un petit peu pour donner une idée de ce qu'on fait. Après, derrière, effectivement, c'est exactement ce comme tu dis, parce que moi j'ai mes études, bon maintenant ça fait un peu longtemps, ça fait déjà quelques années, moi j'ai fait du droit et une école de commerce. Même chose pour deux associés qui sont Axel et Sébastien. Le seul ingénieur est Grégoire. Il est un ingénieur, mais aucun de nous quatre a un background informatique, IT. On s'est approché un petit peu à l'e-commerce il y a 4 ans, lorsqu'on avait commencé à avoir la possibilité de pouvoir distribuer du matériel de manière digitale, mais on avait juste un petit peu tâté qu'est-ce que ça pouvait donner. Et il y a 2 ans, on a commencé, je dirais vraiment from scratch, c'est-à-dire sans aucun outil. Donc on s'est un peu approché à ce monde, on a un peu compris, notamment avec, je l'avais déjà mentionné dans des autres discours avec des amis et comme ça. Bah, nous, on a commencé avec Startup ACAP, qui après nous a présenté Thomas, donc Essentiel. Ouais. Startup ACAP a été la première boîte qui nous a un petit peu aidé à comprendre quels étaient les outils possibles. Donc, on a commencé avec Startup ACAP, avec Airtable et Zapier, par exemple. Et ils nous ont expliqué comment on pouvait utiliser des outils sans avoir forcément des vraies connaissances IT. Après, il fallait bien évidemment bosser, apprendre, il fallait qu'on s'y mette. C'était pas aussi évident du premier mois. Et après, la première phase d'accompagnement avec Startup ACAP, au bout de 6 mois, ils nous ont présenté Thomas, Essentiel. Et depuis, on a continué à travailler ensemble, parce qu'Essentiel, pour nous, c'est très important, parce que ça nous permet un petit peu aussi d'un point de vue stratégique de décider, comprendre quels sont les outils qu'on pourrait développer dans les prochaines phases, et aussi nous aider pour toute la partie un tout petit peu plus technique, pour laquelle on a besoin de support, au moins pour comprendre comment le développer. Mais le mécanisme est toujours le même. Depuis le début, on a utilisé Airtable, qui est encore aujourd'hui notre base de données. Derrière Airtable, on a développé tous les autres outils d'automatisation qui sont Zapier, qui nous permet de relier tous les autres applications qu'on utilise comme Mailjet pour les mails, Twilio pour les SMS. Là, on est en train de développer une solution avec WhatsApp Business, toujours pour une automatisation de WhatsApp au lieu que SMS. Dernièrement, on a aussi commencé à un petit peu utiliser Retool, qui nous permet de créer des formulaires très intéressants qui mettent à jour en temps réel nos données, notre base de données sur Airtable. On utilise aussi des autres applications de calendrier en ligne qui permettent de booker des espaces, des chronos avec nous pour pouvoir parler avec des experts pour leur projet. Donc, on essaye un peu d'utiliser pas mal d'applications existantes pour lesquelles il faut souvent payer un petit forfait mensuel pour avoir toutes les fonctionnalités premium qui sont dans notre cas essentielles. Et après derrière, grâce surtout à Zapier, mais dernièrement Retool a montré d'avoir aussi beaucoup de potentiel. Ça nous permet d'avoir un système très très propre, mais qui derrière est un petit monstre. Donc, dans phase de vitrine sur notre plateforme, c'est très propre, c'est bien automatisé. Et derrière, c'est un petit monstre. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a totalement customisé. Aucun d'entre nous a des connaissances de langage Java, HTML. On utilise tout simplement des iframes. Qui nous permettent de copier-coller des codes HTML préexistants. Donc, ça a été, c'était une très belle surprise de comment aujourd'hui, beaucoup plus, je crois, qu'il y a 10 ans, il y a des possibilités incroyables, des potentialités incroyables de pouvoir développer des sites ou des plateformes assez poussées sans avoir une vraie connaissance dans le domaine. Après, comme j'avais déjà annoncé avant, pour nous, ça a été très important et c'est toujours le cas d'avoir derrière du support de qualité et fiable, comme ça a été Startup Hackup et Essentiel aujourd'hui. Mmh. Et après, ça a été très important de mon côté de s'y mettre à fond la première année. C'est-à-dire qu'on est, on est 4 associés. Moi, surtout dans la première phase, aujourd'hui un tout petit peu moins, mais en tout cas jusqu'à il n'y a pas longtemps, je me suis occupé à plein temps du système pour avoir la possibilité et le temps d'acquérir beaucoup plus d'informations, de comprendre comment fonctionnent les automatisations, s'il y a des bugs ou si on veut développer des nouvelles automatisations, d'avoir les bons réflexes de comment on pourrait le faire, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Et donc, oui, par rapport à mes connaissances il y a 2 ans, il y a une courbe d'apprentissage verticale de mon côté, parce que je me suis...
Mais justement, ouais. J'aimerais bien revenir sur ces 2 points. Le premier, c'est un petit peu l'accompagnement que tu as eu par Startup Hackup d'abord, puis Essentiel, et puis après sur ce côté auto-formation, etc., qui vont un peu ensemble. Mais justement, j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur la collaboration que tu as eue avec Startup Hackup et que tu nous expliques un petit peu comment ils t'ont accompagné, ils vous ont accompagné, comment ils vous ont, quelle a été un petit peu la démarche. Et c'est quelque chose qui est, moi j'ai eu l'occasion de les rencontrer, je trouve que ce qu'ils font est hyper intéressant. Mais justement, j'aimerais bien que tu en dises un petit peu plus là-dessus pour aussi un petit peu inspirer les gens qui écoutent ce podcast, notamment il y a pas mal d'entrepreneurs et de porteurs de projets, pour qu'ils comprennent ce que c'est aussi la collaboration avec une agence qui fait de l'accompagnement, par exemple, comme peut faire Startup Hackup.
Oui, première chose, moi je pense que Startup Hackup font le boulot le plus beau du monde, parce que c'est un peu hybride ce qu'ils proposent. Parce que normalement, leur approche, c'est des potentielles startups ou des startups existantes à faire un bon focus sur quel est leur business model, leur mission et qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et après, derrière, ils utilisent leurs connaissances informatiques pour réfléchir comment, d'un point de vue digital, on peut y réussir. Donc, il y a le côté un peu plus école de commerce, économique, business, et le côté IT. Ouais. Je pense avec nous, vu qu'on est quatre associés qui ne sont plus des vrais jeunes parce qu'on est on a tous plus que 30 ans aujourd'hui, donc c'est on n'était pas à notre première expérience d'entrepreneur. Ce côté business avec Startup ACAP a été beaucoup plus simple, je pense, que plutôt que d'autres cas dans lesquels effectivement ça peut c'était la même chose pour nous, hein, il y a longtemps. Lorsqu'on a 25-26 ans, on est moins structuré, on est un peu plus dans une
moindre recul, les expériences.
Exactement. Donc de ce côté-là, je pense Startup ACAP pour eux, ça a été plus simple. Par contre, côté IT, c'était des deux côtés, c'était très intéressant. Ils nous ont quand même aidé à faire une claire recherche de marché par rapport à quels étaient nos potentiels concurrents, comment on aurait pu développer le site d'un point de vue layout, vitrine, mais aussi d'un point de vue système derrière. Et on a fait un bootcamp de 3 jours, très, très intense. Et dans 3 jours, finalement, on a créé en 3 jours le premier site et la première base de données avec toute la structure. Donc, ils ont pris toutes nos idées et ils les ont. On a utilisé justement une grosse chambre dans laquelle on a complètement déstructuré tous les points qu'on avait évoqués. Et après, ils ont repris tous les points évoqués dans le système Airtable. Donc, c'est eux qui nous ont créé pour la première fois notre identité digitale, je dirais.
D'accord. Et donc, c'est eux qui ont fait le premier design, comme on dit, de la base de données.
Oui, le premier flow, exactement.
Ouais. Okay. Sur la base de ce que vous leur avez dit. Et est-ce que quand vous avez fait ça, justement, vous avez aussi pu assister à tout ce process et donc comprendre aussi déjà, avoir un peu comme une formation déjà à Airtable, c'est-à-dire comprendre comment ça fonctionnait pour ensuite le reprendre? Ou est-ce que c'est
non, ce deuxième temps? Non, c'était une formation continue, c'est-à-dire que tout a été fait ensemble et une partie déjà, même au troisième jour, c'était déjà nous qui commençait à faire des choses avec derrière les personnes de Startup ACAP qui nous corrigeaient ou qui nous expliquaient. Là, j'avoue quand même que ça a été très dur parce que 3 jours intenses, c'était super intéressant. Mais en même temps, moi, je me rappelle, vu que j'avais à l'époque, depuis le début, j'étais bien au courant que j'avais la responsabilité de gérer le système. Moi, après les 3 jours, j'ai dit, les gars, je vais pas y arriver. Hein. C'est impossible. Je comprends rien du tout. C'est-à-dire, oui, j'avais compris un peu l'idée de comment Zapier marchait, quelles étaient les possibilités, mais après, finalement, l'idée de pouvoir créer un Zap moi-même ou justement créer des automatisations potentiellement avec Medjet ou d'autres applications, j'étais sûr et certain que c'était hors de question que je puisse le faire tout seul. Après, derrière,
c'était… Mais qu'est-ce qui a fait le déclic, justement? C'est quand tu as mis les mains dedans, peut-être, ou…
Primo, je pense, c'est aussi une question de caractère. Il faut aussi accepter il y a toujours un moment de rejet, mais après on dit non, il faut absolument que j'y arrive. Donc il faut quand même avoir la volonté, le courage de dire je vais pas m'arrêter à la première difficulté. Et après la confiance aussi qui nous a donné Startup ACAP, parce que ils nous ont quand même fait comprendre que c'était le message était: ne vous en quittez pas. C'est normal que vous ne compreniez rien du tout aujourd'hui, mais je vous assure que c'est assez simple. Donc, il faut pas avoir peur. Et surtout après les 3 jours, pendant les premiers 2 mois, j'avais un contact, je dirais pas quotidien, mais presque, avec quelqu'un de l'équipe de Startup ACAP qui me donnait un peu de formation continue. Et l'idée, c'était justement: on avance. Ils nous ont laissé exprès après les 3 jours, disons que la vitrine, elle était prête. Il y avait quelques automatisations qui avaient été finalisées. mais il y avait encore beaucoup de tâches encore à compléter. Donc l'idée, c'était pour eux. Maintenant, c'est à vous de le faire. Et presque, je dirais presque comme des professeurs au lycée, bah, ils me donnaient des tâches hebdomadaires en disant, bah, Marco, est-ce que tu l'as fini? Il faut que cette automatisation soit finie okay. cette semaine. Et après la semaine, on discutait justement de comment ça s'était passé. Ils m'aidaient à la compléter si j'avais pas pu la compléter. Mais il y a eu des moments dans lesquels ils ont été même un peu durs. Mais je pense que c'était bien. C'était important.
Okay. Comme des professeurs aussi, des fois un petit peu. Mais là, je pense que ce qui est intéressant aussi, enfin là, ce que tu décris est hyper intéressant. Et je pense qu'un des intérêts aussi, c'est quand même que avec ce travail préliminaire qu'ils ont fait, ils vous ont lancé sur des bonnes bases, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place des choses où ils vous ont évité peut-être aussi des écueils. Et puis après, vous avez par-dessus, enfin comme tu disais, tu t'es formé, t'as appris, t'as fait des tâches sous leur guidage, enfin sous leur supervision, on va dire. Et encore plus, même si tu te trompais à ce moment-là, au moins le point de départ était bon. Et puis c'est après le. Je pense que ça, c'est aussi une bonne manière de faire.
C'est une très bonne manière de faire. Et l'idée, c'était quand Startup Acap commence à travailler avec une startup, ils veulent toujours comprendre le modèle, la mission, mais aussi quel est le business qu'on veut faire pas seulement dans le moyen terme, mais aussi dans le long terme. Parce qu'ils essayent un peu de réfléchir. Après, tout le monde peut se tromper. Je pense que ça c'est arrivé aussi à eux. Pas avec nous, heureusement. Mais que l'idée, c'est de chercher les bons outils par rapport au type de business qui va se développer après derrière. Pas seulement dans les prochains 6 mois, mais sur les années. Et ça, c'est, je pense.
Pas avoir à tout jeter au bout de quelques mois et puis tout refaire.
Oui, parce que peut-être on commence avec un outil un peu trop simple qu'au bout de, qui n'a pas assez de potentiel après derrière. C'est très intéressant. La première fois que Thomas, on avait commencé à travailler ensemble, je pense qu'il était assez impressionné de comment on utilise Airtable. Parce que je pense aujourd'hui, Airtable, c'est une base de données que nous, on utilise presque à 100% de son potentiel.
Ok, ouais, non, effectivement, c'est ce qu'il avait l'air aussi de mentionner quand on avait parlé, qu'il m'avait parlé de vous. C'est ce qu'il me disait, ouais. Et justement, alors comment... Enfin, j'ai deux questions, mais là, ça m'intéresse justement de voir un petit peu, que tu nous expliques un peu la transition qui s'est faite entre Startup Fuckup et Essentiel, et toujours toi, ton rôle là-dedans, et ce que tu as continué à faire. Et après, j'ai une autre question, peut-être que répondre avant, qui est là aujourd'hui, donc ça fait 2 ans, si j'ai bien compris.
Oui.
Vous n'êtes toujours pas bloqué, c'est-à-dire que vous n'avez toujours pas atteint les limites du système, vous n'avez toujours pas besoin, peut-être vous aurez, est-ce que tu penses que vous n'aurez jamais besoin d'aller voir une agence de développement traditionnelle qui doivent vous recoder tout ça?
Disons que c'est une question compliquée, je pense qu'on n'est pas encore bloqué. On a... C'est une question stratégique qu'on est en train de se poser. On est presque, je dirais, on est plutôt tous d'accord à dire que on recherche une croissance aujourd'hui plus horizontale que verticale. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on essaye de répliquer ce qu'on a créé avec les mêmes outils d'aujourd'hui, plusieurs plateformes sur plusieurs pays. Et ça, pour nous, c'est une croissance horizontale qui nous permet un petit peu aujourd'hui d'utiliser ce qu'on a appris dans les dernières 2 ans sans devoir faire du développement continu et très poussé. Et ça, c'est un peu la stratégie qu'on a aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas dans le moyen long terme aussi une croissance verticale, donc développement des outils, chose qu'on fait chaque trimestre, parce qu'il y a toujours des petits outils qu'on est en train de développer qui sont cohérents par rapport aux plateformes actuelles. Je ne sais pas si potentiellement c'est possible qu'on va atteindre les limites, mais si on va atteindre les limites, on va toujours essayer de trouver des solutions avec le même esprit. Parce que ce que je vois, c'est que laisser totalement les mains à une agence de développement qui fait peut-être un travail excellent, très beau, très fonctionnel, mais très customisé, ça nous permet pas d'avoir les mains sur ce qu'on fait.
Et, bien sûr, la réactivité, d'adapter en fonction de votre business et des nouvelles idées que vous pourriez avoir. Enfin, forcément, une agence, n'importe même la plus agile de la Terre, il y a toujours une inertie inhérente au fonctionnement, à la gestion de projet, au planning.
Et derrière, c'est aussi de la consultance, donc c'est un peu compliqué de pouvoir gérer un budget de ce genre.
En plus, oui.
Et ça peut être vite dangereux pour le, ouais, pour le bien de la boîte. Nous, on est très contents de ce modèle, donc il faut qu'on va toujours... Pour moi aussi, dans le sens de mon rôle, je vais toujours rester un peu responsable de toute la partie système et gestion, automatisation. Et même si aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec Thomas ou d'autres experts, moi, j'essaye toujours de me prendre le temps, pas seulement de dire « je voudrais avoir telle application », mais plutôt de dire « je voudrais avoir telle application, malheureusement, j'ai pas le temps de la faire moi-même ». Et si je sais pas la faire, après que l'application a été créée et fonctionne bien, moi je voudrais avoir la possibilité de savoir, apprendre, comprendre comment a été faite cette application. Il faut toujours que j'ai la possibilité de savoir ce qui se passe. Autrement, ça risque de devenir dangereux parce qu'on ne maîtrise plus sa propre plateforme et son propre business.
Bien sûr. Et alors justement, cette collaboration avec Thomas, comment est-ce qu'elle a démarré et pourquoi vous avez eu besoin à un moment de passer justement à une expertise encore plus poussée ?
Avec Thomas, on a commencé assez rapidement parce que la vocation de StartFACAP n'était pas de garder une collaboration continue. Leur vocation, c'est justement de s'approcher à des startups existantes ou en cours d'existence et de les aider, de les accompagner dans les premiers mois de développement de leur business. Après, ils sont beaucoup moins présents et moins intéressés à faire le suivi. Et pour nous, c'était quand même très important parce que, évidemment, au bout de 3 à 4 mois, j'avais appris beaucoup de choses, mais j'étais pas complètement indépendant. Et StartFACAP nous a présenté Thomas et on a commencé tout de suite à travailler ensemble au début pour de la simple, disons, maintenance du support quand il y avait des bugs ou il y avait des problématiques par rapport à Zapier, de comment pouvoir les résoudre très rapidement et nous accompagner sur ça au début. Après quelques mois de travail, on a quand même découvert un peu le potentiel qu'il y avait derrière de notre plateforme et de Thomas en même temps, parce qu'il a une manière de travailler qui nous a plu beaucoup, parce qu'effectivement il fait l'accompagnement et il est capable de donner tout le support nécessaire, mais ça nous permet aussi d'avoir toujours une formation continue avec nous. Donc, même les missions qu'on lui a données par rapport au développement d'outils spécifiques, de formulaires un peu plus compliqués à créer, où on a demandé son aide, ou aussi des automatisations un peu plus compliquées. On a créé des automatisations avec Airtable à l'usage interne, qui sont des API déjà un peu plus poussées. Et sans lui, on n'aurait pas été capable de le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que grâce à Thomas, aujourd'hui, on est capable de le faire. C'est-à-dire qu'avec lui, on a toujours bossé dans la manière que lui, il a toujours fait la première mission lui-même. Après, il a pris le temps de m'apprendre comment il a fait. Et après, derrière, c'est moi qui a continué à travailler sur les bases d'apprentissage que j'ai eues à travers Essentiel. Et après Essentiel, derrière, nous a toujours donné du support lorsqu'on était bloqué ou il y avait des points de blocage. Donc, cette approche et ces compétences nous ont plu beaucoup. Et depuis maintenant un an et demi, je pense, avec Essentiel, en tout cas, on a été un des premiers clients. Parce que Thomas, il travaillait déjà. Je pense Essentiel est aussi assez jeune comme société, un peu comme nous. Et on a plus ou moins commencé en même temps. Donc, on a été un des premiers clients. Aujourd'hui, on continue à travailler avec lui tous les mois. On est très contents. Et aujourd'hui, on a commencé il y a 2 ans avec une plateforme en France. Aujourd'hui, on a au total 3 plateformes en France, 4 plateformes en Allemagne, 2 plateformes en Italie, beaucoup de flow sur Airtable parce que c'est des bases de données différentes et il y a beaucoup d'automatisation et l'idée.
Est-ce que tu pourrais nous illustrer, par exemple, un petit peu, alors j'imagine qu'il y a plein de choses, hein, mais pour voilà, un petit peu, faire un exemple un petit peu de flow, d'une séquence, de je sais pas, enfin, okay. Voilà, pour donner un petit peu une illustration de vraiment comment vous utilisez ces outils.
Alors, je vais essayer de le faire de la manière la plus simple possible. Normalement, on a un site vitrine dans lequel il y a des formulaires. Nous, on aime beaucoup Jotform pour les formulaires. D'un point de vue marketing, on a essayé beaucoup de solutions et on estime que le plus catchy, c'est de loin Jotform.
Pourquoi, juste en deux mots, en termes de c'est les fonctionnalités, c'est le design,
c'est le design et c'est pas forcément les fonctionnalités. Hein. Jotform, je pense pas que ce soit le plus utilisé aujourd'hui par rapport justement aux fonctionnalités, mais c'est le design qui fait la différence. On a fait des tests parce que pour voir si les gens aient complété le formulaire et avec Jotform, on a toujours eu les meilleurs résultats. Et parce qu'après, il y a toujours le fameux tunnel, le conversion killer. Donc, il y a toujours quelqu'un qui commence le formulaire, mais il faut absolument qu'il arrive jusqu'au bout.
Mais Jotform, je trouve que c'est un outil qui est vachement sous-estimé. C'est Noam, avec qui on travaille également, qui est un expert Airtable aussi, qui nous en parlait. Et c'est vrai qu'il y a plein aussi de fonctionnalités dans Jotform qui n'existent pas dans Typeform, par exemple, qui est un peu le...
Voilà, Typeform est un peu le standard. Mmh. Que nous, on a aussi essayé d'utiliser parce que justement, Typeform a quelques fonctionnalités de plus, il faut dire. C'est tout à fait vrai. Mm. Mais ça a été un désastre d'un point de vue de conversion killer dans le tunnel du formulaire.
Hein, c'est un bon retour d'expérience.
Donc, pour nous, ça a été très important de bosser avec Jotform. Ça, c'est nous qui l'avons trouvé et c'était une belle satisfaction. Bon, c'était déjà connu, mais c'est pas venu de Startup Hackup où Thomas, on a commencé dès le début à utiliser Jotform. Mm. Donc, le système, il est comme ça. Nous, on crée ce formulaire en ligne. Quelqu'un commence à faire le formulaire et une fois qu'il arrive jusqu'au bout, l'information, elle est grâce à Zapier et un webbook. Il est envoyé directement à notre base de données sur Table. Après, nous, on a essayé d'être un peu malin parce que souvent, on a besoin de plus d'informations. Mais au lieu de créer un formulaire un peu long où on est plutôt sûr que les personnes vont s'arrêter au bout d'un moment, on a créé trois formulaires un après l'autre avec un redirect link pour faire en sorte qu'au moins le premier formulaire avec les informations essentielles soit retenu. Et si jamais il s'arrête, on a toujours la possibilité de le contacter de manière un peu plus traditionnelle. Et après, derrière, un deuxième formulaire un peu plus poussé dans lequel on demande des informations un peu plus techniques. Et
c'est un très bon conseil, je pense, pour les gens. C'est une petite astuce pour augmenter la conversion ou au moins, en tout cas, s'assurer qu'on peut recontacter les gens et avoir au moins une partie de l'information.
Exactement. Mais il faut que ça reste quand même un peu équilibré parce que derrière, il ne faut pas non plus avoir une base de données incroyable. Avec des personnes qui ne sont pas vraiment intéressées. Parce que derrière, il faut quand même un peu de motivation. Donc,
Le premier formulaire fait 3 questions, puis le deuxième en fait 50, et puis un troisième encore qui en fait 20, ça va sentir un petit peu, les gens vont sentir aussi qu'il y a quelque chose d'un petit peu suspect, quoi.
Exactement. Donc, on essaie toujours de rester équilibré, mais c'est un bon moyen de réussir à avoir une bonne lead generation dans notre table de données. Donc, les informations après sont retenues sur Airtable. Et après, une fois qu'ils sont sur Airtable, aujourd'hui, on a des centaines et des centaines de vues avec des différents filtres qui derrière déclenchent soit des activités en interne, soit des activités à l'externe. Quand je parle des activités, c'est tout simplement des notifications, des mails, souvent avec Mailjet, pour demander à quelqu'un de notre équipe de faire quelque chose parce qu'il y a un certain filtre qui est dans cette vue de Airtable et qui fait que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit faire quelque chose activement. Donc ça on l'utilise pour une communication interne, mais aussi pour une communication externe parce que derrière, chaque fois que le projet il évolue dans notre base de données Airtable, c'est-à-dire il est en phase de qualification, il est approuvé, soit on a des questions, on a essayé de automatiser totalement, on a essayé d'automatiser totalement le flow. Donc aujourd'hui, par exemple, même lorsqu'on pose une question à des agriculteurs, parce que peut-être qu'il y a quelques informations qui manquent. Dans une boîte traditionnelle, qu'est-ce qu'on ferait? Ben, on écrirait tout simplement un mail à la personne pour leur poser la question de l'information qui manque. Nous, on utilise Airtable, c'est-à-dire qu'on fait un Kanban et on a une colonne pour le mail. Donc, on fait dans cette colonne d'Airtable, d'abord, on écrit le texte qu'on voudrait envoyer à l'agriculteur, au client, et après on déplace le projet avec un Kanban dans une autre phase qui est par exemple le mail envoyé. Cela fait que ça enclenche un mail avec MailJet automatique qui a toujours une partie fixe qui est bonjour monsieur X blablabla bla, et avec le layout correct du mail. Et après, une partie variable du mail qui est le contenu peut-être de la question spécifique et plus personnalisée qui concerne le projet spécifique. Donc, on essaie vraiment d'utiliser les automatisations pour toutes les tâches, quelles que soient internes ou externes.
Globalement, vous envoyez jamais de mail, dans toutes ces interactions en allant dans votre client mail pour répondre, etc. Tout passe à un moment ou à un autre par la base de données. Quoi.
Exactement. C'est un peu l'idée.
C'est hyper intéressant, ouais.
C'est un peu l'idée. Aujourd'hui, on a une base de données sur les différents flows de, je pense, plus que 10 000 contacts. Et on a une petite équipe. Donc, ce serait un peu compliqué de pouvoir gérer toutes ces informations de manière traditionnelle.
Bien sûr, oui. Non, c'est vraiment là où je pense que tous ces outils, tout ce temps que vous avez passé à automatiser les choses, à augmenter la productivité, entre guillemets, vraiment de votre capacité de traitement, à mon avis, de ce que vous pouvez faire. Ça, c'est un super retour d'expérience parce que nous, on essaie de vachement pousser les gens aussi là-dedans et de dire, bon, arrêtez d'avoir des armées de stagiaires qui répondent à des mails de manière traditionnelle et plutôt saisissez-vous de ça en vous faisant les outils qui vous facilitent la vie, quoi. Donc, c'est vraiment un super exemple, je trouve, de comment les outils no-code et en particulier Zapier Airtable peuvent vraiment à une petite équipe donner la sensation, enfin peut-être voilà le capacité de traitement qu'aurait je sais pas une équipe de 10 ou 15 personnes quoi.
Oui, exactement.
Et alors j'ai une petite question sur la partie un petit peu apprentissage, parce que donc tu t'es beaucoup formé au contact d'experts comme Michael ou Thomas, mais est-ce que toi, tu as des ressources aussi, des choses que tu as découvertes. Enfin, comment tu t'es un peu formé? Enfin, je suppose que quand t'as un bug ou quelque chose, tu les contactes pas. Enfin, tu t'appelles pas forcément Thomas tout de suite. Tu vas chercher un peu toi-même. C'est quoi un petit peu toi ta démarche comme, à ce niveau-là?
C'est Google et YouTube. Ouais. C'est assez simple. C'est-à-dire que c'est le grand classique. On recherche avec les bons mots-clés. Il y a souvent, on utilise quand même des outils très connus. Et c'est pas des outils de niche, donc heureusement il y a beaucoup de support déjà en ligne, de blogs, de tutoriels. Moi j'aime beaucoup aussi YouTube, c'est un peu plus compliqué parce que les tutoriels sur Google il y en a beaucoup et ça marche très bien. YouTube de temps en temps il y a des choses bien faites et j'aime beaucoup parce que ça te permet aussi de voir et pas seulement souvent avec l'informatique, je trouve moi-même, je suis jamais assez patient parce que je suis peut-être en train de lire qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à, bon, par exemple, très très bête, les alias de Gmail pour les mails non payants est un système très utile. Moi, j'aime beaucoup avoir un compte Gmail non payant et derrière créer les alias un peu professionnel de nos plateformes qui sont reliées à ce mail non payant. C'est bête et simple, mais la première fois qu'on s'y met, on lit le tutoriel, on essaye pendant une heure, on n'y arrive pas parce qu'il y a toujours une petite partie qu'on n'est pas en train de suivre à la lettre de ce qui est écrit dans le tutoriel. Et après, bon, c'est une banalité totale, mais c'est un peu la même chose un peu pour toutes les tâches. Il faut toujours bien lire les tutoriels et suivre tâche par tâche pour s'assurer qu'après, derrière le système, ça marche. Ça demande quand même un peu de patience, de concentration, de se relire, même avec Thomas, c'est la même chose avec les API. Il y a toujours une explication pourquoi une automatisation ne marche pas, mais de temps en temps, ça prend beaucoup de temps et après, on se rend compte que c'était une toute petite bêtise oubliée par moi ou même par un expert comme Thomas. Ça peut arriver à tout le monde.
C'est un peu les frustrations que vivent les développeurs au quotidien. Un petit point virgule oublié quelque part, tout ça, on peut chercher pendant des heures. Et ça existe aussi un petit peu dans le no-code, dans la programmation visuelle, parce que l'informatique est un peu, l'ordinateur est un peu sans pitié, quoi. Et donc, comme tu dis, la moindre petite chose, il faut de la précision, il n'y a pas d'à peu près, quoi, dans tout ça. Et c'est aussi, je pense, une bonne recommandation aux gens de se donner un petit peu de patience et de focus, quoi.
Exactement, exactement. Et donc du coup, pour répondre à ta question, c'est plutôt simple. Hein. Il y a d'une part le support des experts, mais après c'est beaucoup de Google, beaucoup de tutoriels, un peu de YouTube et un peu de try and error. Donc tout simplement de s'y mettre, de dire j'ai une idée, j'essaie de voir. J'ai une petite idée de comment commencer, de comment il faut commencer cette activité. Je la commence et après je me retrouve à essayer de trouver des solutions lorsque j'ai des points de blocage.
Mais ça, c'est très important aussi. Hein, on voit dans les gens qu'on forme, il y a ce truc aussi, comme on dit, hein, l'informatique, c'est précis. Et effectivement, quand quelque chose ne marche pas, il y a toujours une raison. Mais il y a aussi des gens que ça bloque et qui disent « Ok, bon, tant que je ne sais pas faire parfaitement, je fais pas, et il reste, alors que il faut jamais avoir peur, quoi. On va jamais casser son ordinateur, on va jamais casser Internet en essayant des choses dans Zapier, même, enfin, en programmant. Mais ça, c'est aussi vraiment ce trial and error, c'est une manière de faire, quoi. Vraiment, c'est une manière d'apprentissage. Il faut se planter pour apprendre, pour trouver la bonne manière de faire. Des fois, il faut tester les 5 qui ne marchent pas, quoi. Après, c'est là où la formation aide à gagner ce temps. Un petit peu comme on disait tout à l'heure avec ça, Start the Fuck Up, qui vous ont mis en place là, des bases. Mais ça n'a pas empêché derrière que tu as itéré, tu as essayé des choses pour bien comprendre comment ça fonctionnait, quoi.
Et ça, je trouve, c'est vraiment un point de blocage énorme psychologique pour beaucoup de personnes. Et je le vois bien notamment pour mes associés qui sont des personnes quand même... c'est pas seulement parce que c'est mes associés, mais c'est vraiment des personnes très intelligentes qui ont beaucoup d'idées géniales. Mais dans ce domaine, il y a un point de blocage psychologique incroyable. C'est pour eux, c'est
bien sûr, beaucoup d'autres
impossible de s'y mettre. Ils veulent pas s'y mettre. Et de temps en temps, ça me rend dingue que lorsqu'il y a un petit bug, une petite problématique, nous, évidemment, on a une chat avec Telegram directement avec Thomas et toute notre équipe d'associés pour pouvoir communiquer avec lui s'il y a des urgences. Et de temps en temps, ça arrive qu'il y a un petit blocage, un petit bug et il y a un de mes associés qui écrit « Thomas, est-ce que s'il te plaît, si tu peux regarder ça, je comprends pas pourquoi ça marche pas. » Et moi, je m'engueule pour ce genre de message parce que avant de demander à un expert, il faut quand même que tu te prennes la peine de regarder. Peut-être c'est un truc stupide, banal, et surtout un expert ne peut pas résoudre ton problème s'il ne comprend pas d'où ça vient. Donc de toute manière, il faut toujours faire l'effort et l'exercice de essayer de trouver la source de l'erreur. Et après derrière, si on est incapable de le résoudre, l'expert t'aidera. Mais en plus, sans ça, c'est du temps perdu pour tout le monde.
Si tu as réussi à trouver, en plus, tu auras appris quelque chose. Ça, c'est quand même aussi l'intérêt de un peu débugger soi-même. Et en plus, ce qui est très dur, effectivement, quand on reporte un bug à un expert, on va dire, c'est que les gens ne savent pas. Il faut donner tout le contexte. Il faut donner beaucoup d'informations, en fait, même pour trouver un petit bug. Et ça, c'est quelque chose de très dur. Enfin, moi, j'ai géré une agence web pendant longtemps et les gens nous contactaient, nous disaient ça marche pas. Et puis, c'est tout, quoi. Et donc, en fait, juste ça marche pas, ça suffit pas. Il faut dire qu'est-ce qui marche pas, pourquoi, dans quel contexte, avec quelles entrées dans le formulaire, avec quelles sorties, enfin, quel est le bug, peut-être faire un screencast. Bon, ça dépend des bugs, hein, évidemment. Et donc, en fait, ce travail, de donner le bon contexte pour que l'expert puisse facilement trouver la réponse, il peut prendre du temps. Et donc, en fait, des fois, il vaut mieux aller voir soi-même essayer de résoudre, et ça va peut-être aller plus vite que de faire un bon rapport de bug, j'ai envie de dire, à un expert qui, si le rapport de bug est bien fait, peut-être il trouvera la solution très vite, mais on va peut-être trouver soi-même, quoi.
Oui, oui, oui.
Écoute, c'est tout ça a été très passionnant, comme ça revient un peu sur la fin du podcast. Alors, j'ai quelques questions un petit peu plus générales. Enfin, c'est super, tu nous as vraiment bien décrit tout ce que vous faites. Déjà, j'avais une première question un peu. Est-ce qu'il y a d'autres outils, no-code, que tu n'aurais pas mentionné? Enfin, tu en as cité pas mal, mais éventuellement que vous utilisez en dehors pour des choses un peu plus spécifiques, ou je ne sais pas.
Je pense, ce qui est très, moi, j'aimerais bien parler peut-être de Retool, ouais. Tout simplement parce que c'est quelque chose de nouveau. Et c'est intéressant parce que ça revient un petit peu à ta question du, est-ce qu'aujourd'hui on est atteint un niveau, un point de blocage avec certains outils comme par exemple Airtable, qui est très intéressant, mais il y a beaucoup de limites par rapport à la communication, avec l'externe. Mmh. Parce que Airtable a un peu cette limite d'avoir un système de formulaire très basique et pas très beau.
Ouais.
Et derrière, si on veut partager, changer, mettre à jour des informations, soit il faut, on est obligé à partager toute la base de données, ce que ne peut pas évidemment imaginer avec des externes. Mais en même temps, le système déjà de mise à jour de colonnes ou d'informations existantes est toujours un peu compliqué. On peut toujours s'y mettre avec des API en créant des doublons, des tables. C'est pas beau, c'est pas propre, c'est pas bien.
Mmh.
Et Retool, on a commencé à utiliser avec Thomas, et c'est très intéressant parce que ça permet de créer des blocs, des formulaires, des.
En fait, ça vous permet de créer, je suppose, c'est un outil que je connais pas très bien, c'est Thomas d'ailleurs qui me l'a fait découvrir, mais ouais. Ça vous permet de créer des interfaces graphiques pour gérer vos données. Est-ce que c'est ça quelque chose
exactement,
qui serait plus
exactement,
fin
c'est
que
un peu,
l'interface d'Airtable. Okay.
C'est un peu un tunnel. Aujourd'hui, par exemple, on a créé un synoptique de qualification. C'est un peu un guide, un suivi pour chaque projet, pour les personnes aujourd'hui en interne qui travaillent chez nous, lorsqu'ils appellent l'agriculteur pour lui demander des informations qui manquent et qui font donc qui posent beaucoup de questions techniques. Donc, à travers ce synoptique, il y a un suivi des questions à poser. Et par rapport à la réponse, les questions d'après vont être conditionnées. C'est-à-dire que derrière, il y aura potentiellement des points de blocage automatisés ou des réponses pré-remplies. Et ça, c'est très intéressant parce que grâce à Retool, on a cette interface qui nous permet d'extrapoler les données existantes d'une ligne spécifique d'Airtable et de la pouvoir modifier en temps réel sans avoir accès à toute la base de données d'Airtable.
Mmh.
Aujourd'hui, on la teste en interne avec nos employés qui, de toute manière, ont accès à la base de données complète. Mais si ça marche, ça nous permettrait potentiellement, si on a une masse de travail trop importante, de pouvoir potentiellement aussi externaliser une partie de ce travail momentanément ou même pendant plus longtemps. Mais cette interface est très intéressante parce que ça te permet de dire, moi, je veux montrer cette info, mais que cette info, et je veux faire en sorte que cette information soit mise à jour en même temps et que je puisse voir qui a mis à jour cette information et quand. Et donc, c'est un peu une protection de notre base de données, mais en même temps, la possibilité de pouvoir exploiter et la modifier à tout moment.
Ok, ouais, non, c'est c'est un outil qui a l'air extrêmement intéressant parce qu'il est très générique et qui peut permettre justement de créer des interfaces comme ça, très très avancées, quoi.
Alors, d'un point de vue design, c'est pas très joli. On peut même créer des cartes, hein, on peut un peu tout faire. Moi, je pense que Retool a surtout beaucoup de potentiel pour toutes les activités internes.
Oui.
De gestion d'informations internes. C'est pas vraiment le meilleur outil marketing. Ça, je l'utiliserai pas trop.
Ouais.
C'est pas très beau. Il y a des limites de ce point de vue-là. Mais bon, c'est.
Ouais, je pense que pour moi, c'est un outil qui rentre vraiment dans la catégorie de l'outillage interne, qu'on peut utiliser en conjonction avec Zapier et Airtable pour se créer ses propres outils, ses propres interfaces, sans avoir à passer par des outils no-code comme Bubble, comme qui sont vraiment des app builders, quoi. Mais là, en fait, on est à un niveau d'abstraction plus haut qui me paraît plus intéressant, quoi. Ou alors des choses qu'on développerait avec des développeurs traditionnels. Ça existe. Il y a des gens qui font appel à des agences pour créer des petits front-end par rapport à leur base Airtable. Je pense que Retool peut faire ce genre de choses, en tout cas pour de l'interne, puisque effectivement le design est limité.
Exactement.
Ok, bah écoute, super. Alors j'ai deux dernières petites questions. Une première question, alors tu nous as donné vraiment avec ces retours d'expérience plein d'informations très, très intéressantes, je pense pour des gens qui voudraient se lancer. Mais je me demandais si tu avais peut-être d'autres conseils, voilà, un petit peu pour des gens qui seraient un peu dans le même cas que toi, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément de background dans le digital, mais qui ont des expertises métiers, qui veulent lancer un produit, un service autour de leur expertise, et où forcément il y a une façade digitale.
Conseil, toujours difficile à donner des conseils parce que c'est toujours très individuel, très spécifique par rapport au business. Moi, je pense que si on veut lancer une activité qui a une forte pensée digitale, une forte mission digitale, c'est important d'avoir au moins un ou plusieurs associés dans lequel chacun il soit capable de maîtriser au moins une activité spécifique. Parce que bon, moi, ça a été très important dès le début que moi, je puisse me dédier à 100% à l'apprentissage et à la formation et à la gestion du système des plateformes, en sachant que derrière, j'avais quand même d'autres associés qui géraient la partie commerciale et ou de développement stratégique d'un point de vue marketing.
Ouais.
Parce que finalement, il faut bien, nous, après 2 ans, heureusement, on a bien fait notre travail et on est très contents parce que on est dans une dynamique très positive d'un point de vue de facturer, de travail et de satisfaction. Donc, heureusement, notre projet a bien démarré et nous a donné déjà beaucoup de satisfaction après 2 ans. Mais c'est quand même très important parce que sinon après ça donne des grosses frustrations derrière. C'est que si au bout d'un an, on a créé un système très beau, mais que personne n'utilise ou que derrière ça crée pas un business, une activité. Après ça dépend de quelle activité on va faire. C'est dommage. C'est beaucoup de travail pour rien.
Bien sûr.
Donc il faut toujours être une équipe dans laquelle, oui, il y a quelqu'un qui doit avoir la patience et l'envie et la volonté de, même sans avoir forcément des connaissances comme dans mon cas pour la partie IT, informatique, système. Mais il faut derrière aussi un associé ou quelqu'un d'autre ou plusieurs personnes qui font que après derrière ce qu'on va créer va donner des résultats.
Bien sûr. Ouais, non, ça, je pense que c'est des fois aussi un petit écueil d'entrepreneurs solo qui se lancent. Alors, des fois, c'est par la force des choses, hein, on n'a pas d'associés, ça arrive, mais qui veulent trop faire de choses eux-mêmes au détriment, du coup, des autres, enfin, trop de choses techniques, j'ai envie de dire, par rapport au digital, etc., par rapport au côté business, à leur expertise. Et ça, je pense que c'est un écueil, et c'est là où, justement, travailler avec des experts pour sous-traiter en collaboration intelligente et rapprocher peut avoir de la valeur. Mais je suis d'accord que le scénario idéal, c'est celui aussi un petit peu qu'on a chez Contournement, c'est entre plusieurs associés se répartir aussi les choses et notamment ces nouvelles compétences qu'on apprend, quoi.
Oui, oui, oui. Après, je peux te dire, après 2 ans maintenant d'activité, j'avoue que maintenant, on commence franchement à réfléchir à côté d'avoir toujours le support des experts et d'essentiel Thomas, parce que ça va certainement continuer, mais on réfléchit à la possibilité aussi de, pour la première fois, d'embaucher quelqu'un qui ait un peu de connaissances à la base informatique et qui puisse faire un peu le suivi de toutes nos activités chaque jour.
Ok.
Et à plein temps, parce qu'on commence à en avoir trop.
Bien
donc, oui, bien évidemment, moi, j'ai bien envie de pouvoir continuer à gérer et avoir un peu la responsabilité dans ce domaine de notre activité. Mais je me rends compte que au bout de 2 ans, j'ai du mal à pouvoir le faire tout seul ou même seulement à travers un expert externe. C'est pas, ça commence à être un peu, un peu just, un peu compliqué.
C'est plutôt un bon problème, c'est plutôt bon signe, quoi, j'ai envie de dire.
Oui, exactement, exactement.
Alors,
on n'aurait jamais fait dès le début. Ça aurait été.
Ça, c'est vrai, c'est la bonne démarche, quoi. Et toi, t'es d'autant plus en capacité maintenant d'avoir une vision un peu plus high level de cette personne-là qui arriverait. Parce que c'est toi
exactement.
Qui as fait, donc ça, c'est à mon avis vraiment le.
Ça, c'est très important. Exactement, c'est très important. Il n'y a rien de pire, je pense, qu'avoir quelqu'un peut-être avec beaucoup de connaissances informatiques. On lui demande de faire un travail et on ne sait pas s'il est bien, s'il n'est pas bien, s'il fait le malin.
Bien sûr.
Comme ça, surtout si potentiellement on travaille avec des personnes un peu plus jeunes, on leur donne aussi. Pas seulement la possibilité de développer ce qu'ils pourraient faire ou s'ils savent faire, mais aussi de faire une application business à ce qu'ils savent faire. Parce que c'est toujours, à la fin, on revient toujours au même point. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très beau parce que c'est quand même génial de pouvoir utiliser la technologie, l'informatique sans avoir forcément une grosse expérience, une grosse formation ou avoir quand même la possibilité de l'apprendre. Mais derrière, il y a toujours la combinaison application de ce que tu fais dans le business, dans la vie quotidienne, dans le monde. Sinon, il faut que les deux choses soient reliées toujours.
Ouais.
Ah ouais. Il ne faut pas être que dans un monde ou l'autre.
Ouais. On est bien d'accord. La technique pour la technique, ça ne sert à personne, à rien. Si on est passionné, il faut l'appliquer. C'est tout. Ça doit toujours être au service d'un projet, d'un business, de quelque chose, quoi. Ok, alors j'ai une dernière petite question un peu plus personnelle, on va dire, mais pour toi, si tu avais un side project, c'est une question qu'on pose à tous nos invités, justement un petit peu avec toutes ces compétences no code que t'as fait, alors je suppose que t'as pas du tout de temps en dehors de ton activité principale, mais si t'en avais, si tu devais développer, on va dire, un side project avec ces technologies-là, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que t'as une idée de quelque chose que t'aurais envie de développer qui n'a peut-être rien à voir avec ton activité principale?
Bon, t'aurais pu me prévenir à cette question. Je suis pas prêt. J'ai du mal. On se rend bien à donner une réponse parce qu'on a tellement de projets reliés à notre activité aujourd'hui que j'ai presque pas le temps d'y réfléchir à des nouvelles applications. Oui, bon, peut-être c'est un peu technique, mais bien évidemment à travers toutes ces connaissances qu'on a acquis avec Airtable, c'est surtout Airtable où je vois beaucoup de potentiel. Aujourd'hui, on commence à faire aussi du développement de projets photovoltaïques purs, mais même dans le domaine justement développement de projets, ça revient un peu à toutes les études project management. Avec toutes les études qui vont dans le sens du Gantt, des flowcharts et tout ça. Là, je vois des applications très intéressantes Airtable parce que ça permet de... C'est très intéressant de pouvoir imaginer des applications pour des boîtes de petite, moyenne taille. Qui travaille peut-être sur une base de données Airtable en combinaison, pas seulement avec des mails, mais aussi avec Trello, un autre outil qu'on n'a pas mentionné, mais que je trouve très intéressant et avec la possibilité de pouvoir gérer chaque tâche, chaque activité, ajouter des documents, des pièces jointes, des commentaires. Je pense que ça a un potentiel énorme, Airtable, en combinaison avec Trello ou d'autres applications, la possibilité de pouvoir vraiment créer des systèmes, des alternatives aux packages classiques de Microsoft ou Google qui te disent, voilà, ici le Drive, voici le calendrier, le mail. Je pense que ça a du potentiel. Pour améliorer la vie quotidienne.
C'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, quoi. Se faire ses propres outils plutôt qu'aller acheter des choses sur l'étagère, de s'enfermer dans Microsoft Teams et toutes ces choses-là qui vont nous guider. Alors, pour des gens, c'est très bien aussi, hein, des fois, d'être guidé, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on rentre dans l'ère un petit peu de chacun peut maîtriser les outils généraux comme Airtable Zapier et se construire sur cette base-là leurs propres outils parfaitement adaptés à leur business, à leur process et vraiment être maître et libre de ces choix-là, quoi.
Oui.
Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ça, cet entretien.
Merci à toi, Alexis.
Très riche. Et où est-ce qu'on peut vous suivre, enfin un petit peu ce que vous faites? On mettra les liens dans les ressources.
Alors on a récemment créé une page un peu plus corporate qui s'appelle capitalpv.fr.
Ok.
Ça, je pense que c'est un peu le site dans lequel on explique un peu plus qui sommes-nous, où est notre siège, quelles sont les activités, les plateformes qu'on a créées, qu'on est en train de créer.
Okay.
Je pense que c'est un peu le point de où on peut se retrouver.
Ok.
Plus générique.
Super. Et ben on le mettra dans les notes de l'émission.
Merci.
Et ben merci beaucoup, Marco. Bonne continuation pour tout ça.
Merci beaucoup, Alexis, encore une fois.
Et puis
à bientôt.
Ouais, merci.
Absolument.
Au revoir.
Merci. Au revoir.